Radio Okapi.
Le journal avec Babel Bongo.
Okapi.
Bonjour à tous. Ce journal partira de Goma où se tient la conférence internationale sur la réinsertion des femmes victimes de violences sexuelles. Elle vise à aider à la réinsertion des victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Des détails dans un instant. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des cheminots, occasion de dresser un bilan de la Société nationale de chemins de fer du Congo en RDC. Et cette entreprise est en péril et sa situation nécessite de gros financements. Vous suivrez à ce propos son directeur d'exploitation. Dans l'Équateur, ce mois de décembre, c'est l'ouverture de la campagne de vente par les planteurs du café Robusta au sud d'Ubangi. Mais la production attendue sera faible cette année, annonce l'inspection de l'agriculture du territoire de Gemina. C'est à cause d'une maladie qui attaque les cafés. Et bienvenue à cette édition d'information. Commencée hier, la conférence internationale sur la réinsertion des femmes victimes des violences sexuelles se poursuit aujourd'hui à Goma. Son but, mettre en place des stratégies communes pour la réinsertion des victimes des violences sexuelles dans l'est de la RDC. Cette conférence de deux jours réunit une cinquantaine de personnes venues de la Suède, de la Bosnie-Herzégovine, du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Elle est organisée avec le soutien de l'ONG suédoise Kvinna Till Kivina, qui signifie « femme pour femme ». Les organisateurs indiquent que l'échange d'expériences entre ces différents pays permettra d'émettre des recommandations à l'endroit des décideurs en vue de sortir les victimes de leur situation de traumatisme. Bernard Danyangui pour les détails.
Pendant la guerre des Balkans et le génocide du Rwanda, le viol a été utilisé comme arme de guerre à l'endroit des femmes, tandis qu'à l'est de la RDC, depuis ces années d'instabilité en moyenne, et 10 000 femmes violées sont enregistrées chaque année au nord et au sud Kivu. Conséquence, ces femmes, en plus de l'humiliation due à ces viols, restent marginalisées au sein de leur communauté. Kvinna Till Kivina dit initier cette activité pour une lutte commune contre ce fléau qu'elle considère comme un problème international. Lena Hague est secrétaire générale de Kvinna Till Kivina.
Les violences sexuelles et les viols de masse, ce n'est pas un problème que de Congo, mais nous avons vu ça dans l'Europe et plus particulièrement dans les guerres des Balkans. C'est aussi l'Asie et l'Amérique latine. Ce n'est pas un problème de culture, ce n'est pas un problème de sexualité, c'est un crime.
It's criminal, basically.
Cette première journée a été consacrée à l'échange d'expériences, à l'identification des problèmes de réinsertion des victimes de viols et aux propositions de solutions. Demain, les recommandations seront présentées aux délégués du gouvernement, ceux de la communauté internationale et des organisations de la société civile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et pour ces Floribert Chebeya, la deuxième audience a lieu aujourd'hui dans la cour de la prison de Makala, Kinshasa. Une audience qui, en principe, doit faire avancer les procédures préliminaires et intégrer les derniers rebondissements sur la question. Rappelons que la première audience du 12 novembre dernier à la cour militaire avait permis d'identifier toutes les parties, parmi lesquelles 5 accusés et 2 témoins. Au Kasaï oriental, la population de Kabeya Kamwanga se dit victime des tracasseries policières au quotidien. C'est notamment des arrestations arbitraires doublées de fortes amendes forfaitaires. La société civile locale qui dénonce ces abus se dit choquée par ces actes qui traumatisent les habitants. Les responsables de la police sur place qui reconnaissent quelques cas s'engagent à s'y investir. Emmanuel Elamegi.
Cette tracasserie s'observe d'abord dans la cité de Kenankuna, chef-lieu du territoire, avant de s'étendre dans les localités environnantes. Des faits bénins commis même par des mineurs sont réprimés avec la dernière rigueur. Le séjour au cachot dépasse même 10 jours et la libération est conditionnée par le paiement de fortes amendes. Elle varie entre 50 000 et 150 000 francs congolais. La société civile pointe du doigt un sous-commissariat de la police situé à l'entrée du territoire et un cachot de la mer. Les responsables des polices du territoire reconnaissent certains faits mis à charge. Ils affirment ne jamais recevoir de rapport de ce sous-commissariat incriminé. La hiérarchie du district de police installée à Miabi dit être au courant et promet de s'investir pour en finir. Signalons que les mêmes formes de tracasserie policière sont signalées sur toutes les voies dans les localités du territoire. De Kadeya Kamanga, Emmanuel Elamejo Akadedi, Radio Okapi.
Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de cheminots. C'est l'occasion pour nous d'édresser la situation ou le bilan de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Et cette entreprise est en péril et sa situation nécessite de gros financements. C'est son directeur d'exploitation qui le dit. Je vous invite à le suivre.
Vous avez entendu parler de vol des câbles. Vous aviez même couvert ces émissions. Ça, c'est dans la partie sud du réseau des vols de câbles caténaires. Suite à tous ces éléments endogènes et exogènes, nous ont fait perdre en moyenne 2,6 locaux jours. Les besoins de la SNCC se chiffrent de l'ordre de milliards de dollars, bien que dans le premier plan actuel, on a tablé sur 645 millions de dollars. Donc, à l'heure actuelle, la SNCC bénéficie d'un don d'environ 218 millions de dollars de la Banque mondiale. C'est dans le cadre de ces processus de réforme de l'entreprise. Et nous pensons qu'avec ces 218 millions de dollars, la mise en œuvre effective de ces montants permettra progressivement de sortir un peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Vous venez de suivre Marc Mayanga, directeur d'exploitation de la SNCC. Il était au micro de Kola Djuma à Moussompo. Pendant ce temps, en province orientale, le gouvernement provincial vient de débloquer 120 000 dollars américains. C'est pour parachever les projets de construction de certaines infrastructures sociales et administratives dans le district du Haut-Ouélé. Le ministre provincial des Travaux publics l'a dit aujourd'hui à son retour d'Isiro, où a eu lieu hier un conseil extraordinaire des ministres provinciaux. Raymond Chendia précise qu'une école primaire et deux centres de santé sont complètement achevés. D'autres projets sont en cours, notamment la construction de deux centres de santé et de deux écoles dans chacun des six territoires que compte le district du Haut-Ouélé. Mais pour le président de la société civile du Haut-Ouélé, il ne s'agit là que des simples déclarations. Rien de concret n'est réalisé sur terrain jusque-là. Écoutez Richard Banakounoko, président de la société civile du Haut-Ouélé. Il est joint au téléphone par Aliana Alipanagama.
Ce sont des mensonges, ce n'est pas réel. Il y a la réhabilitation de l'Institut du Chiro, ici sur le place en ville, où on a peint seulement la façade principale. Le derrière est comme dans le passé. Je l'ai redit ça dans la salle. L'école primaire est Chiro Moké. Il n'y a que trois salles de classe qui ont été construites. Sur six, il y a sept salles qui devaient être construites. Pour l'école primaire de Bafaba Kalaba. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'est pratiquement superficiel. Il a promis que non, on va réhabiliter les bureaux des districts qui sera pour la province. Alors pour nous, ça nous a permis à réagir pour dire que non, nous ne croyons pas à tout ce qu'ils sont en train de dire.
Et toujours en ce qui concerne la province orientale, le HCR, au commissariat de réfugiés, réagit à l'inquiétude exprimée par la société civile de Dungu, la société civile qui craint un probable afflux de réfugiés soudanais à Dungu dans les prochains mois, au cas où le référendum de l'autodétermination du Sud-Soudan, qui devra avoir lieu en janvier prochain, tourne mal. Pour le HCR RDC, c'est la mission de ce haut commissariat d'anticiper les mouvements de ces populations et d'apporter son appui au pays d'accueil. Et cela se fait toujours en collaboration avec les autorités de ce pays. Céline Smith est porte-parole du HCR. Elle s'explique au micro de Noëlla Luzito.
Par anticipation des conséquences que pourrait avoir le référendum au Sud-Soudan, le HCR envisage en effet avec ses partenaires tous les scénarios possibles pour jouer notre rôle d'organisation chef de file en matière de déplacement et de protection des réfugiés, mais aussi pour apporter notre soutien aux pays d'accueil qui pourraient recevoir des personnes en quête de protection et pour que l'arrivée de ces personnes puisse se faire dans des conditions de sécurité. Nous ne pouvons pas dire à ce stade si des personnes vont traverser les frontières, mais nous devons être prêts. Nous avons un bureau qui est sur place, nous avons un autre bureau à Bounia qui travaille avec les partenaires sur place, avec les autorités, mais également avec la société civile.
Dans l'Équateur, ce mois de décembre, c'est l'ouverture de la campagne de vente du café Robusta au sud d'Ubangi. Mais la production attendue sera faible cette année, annonce l'inspection de l'agriculture du territoire de Gemina. C'est à cause d'une maladie qui attaque les caféiers, une maladie qui a déjà détruit un bon nombre de plantations de café dans ce district. De précision avec Dominique Colombi.
Selon l'ingénieur agronome Moïse Chiona, inspecteur de l'agriculture du territoire de Gemina, au moins 80% des plantations de café sont attaquées par la maladie. La trachémicose, c'est le nom de cette maladie qui se manifeste par le jaunissement des feuilles du caféier. La tige de la plante a la langue noircie, à la récolte, la gousse a la couleur rouge normale, mais à l'intérieur, pas de grains, décrit l'ingénieur agronome Moïse Chiona. L'année dernière, le sud Ubangi, premier producteur du café Robusta à l'Équateur, avait produit 111 000 tonnes. Cette année, dit-il, à cause de cette maladie, maladie, on ne pourra pas atteindre 40% de cette production. C'est depuis quelques années que la trichomycose sévit dans les plantations de café du sud Ubangi, entraînant la diminution constante de la qualité de la production. Les planteurs paupérisés, pour la plupart artisanaux, se disent abandonnés à leur triste sort. L'ONC, Office national du café, qui les encadrait, ne se manifeste plus sur le terrain. Malgré les plaintes formulées ces dernières années, aucune réponse de la part du ministère de l'Agriculture pour leur fournir des produits phytosanitaires pour la combattre. Cependant, au centre de l'Institut national d'études et de recherches agricoles, INERA Bodangabo, à 85 km de Guémena Centre, on dit avoir trouvé une variété de café qui résiste à cette maladie. Mais ce centre manque actuellement de moyens pour sa vulgarisation. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Un retour au Katanga, c'est le troisième jour aujourd'hui de la fermeture de la pêche sur les cours d'eau et lacs. Une mesure arrêtée par le gouvernement provincial. À Kalemie, par contre, la pêche se poursuit sur les lacs Tanganyika comme si de rien n'était, ou plutôt la mesure de fermeture a fait l'objet d'une discussion mercredi dernier entre le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, l'administration locale, les associations des pêcheurs, des spécialistes dans le domaine de l'aménagement du lac et la coordination de la société civile. Au lieu de la fermeture, ces discussions ont permis de dégager une autre voie, celle de la surveillance permanente du lac Tanganyika. Reportage expédié Mampamoubi.
Le lac Tanganyika est-il oui ou non concerné par la mesure du gouvernement provincial du Katanga? En tout cas, la pêche sur ce lac se poursuit normalement et les prises ces trois derniers jours sont assez importantes. La pêche aurait dû s'arrêter le 1er décembre. Or, c'est justement ce jour que le ministre provincial de pêche a choisi pour débarquer à Kalemie et rencontrer ensemble tous les acteurs dans ce secteur. Le ministre a évité d'aborder directement la question qui fâche, a dit le coordonnateur de la Societang et Guilin Kabamba de poursuivre comment faire pour permettre au lac Tanganyika de survivre. Toujours selon notre source, les participants ont été unanimes. Après l'identification des zones de frayeur, un arrêté va suivre pour interdire la pêche dans ces zones. Deuxième mesure, les poissons de baie, notamment les alevins ou timpa comme on les appelle ici, et les nyamou-nyamou ne seront plus pêchés. De tout cela, il ressort en fait que, au lieu de la fermeture de la pêche au lac Tanganyika, le lac va faire plutôt l'objet d'une surveillance permanente. Kalemi, Expedi Mbamoubi, Radio Okapi.
Merci à vous qui avez suivi ce journal.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.
Notre actualité continue sur Radio Okapi avec le journal des sports présenté par Dieudonné Kabeangalula.